Guerre au Moyen-Orient, les gagnants et les perdants sur le marché d'échange, le forex, le marché des matières premières a été bouleversé. Alors, le marché d'échange a-t-il lui aussi été secoué? Quelles sont les devises massacrées? Quelles sont les devises qui gagnent? Y a-t-il qu'un seul gagnant, qu'un seul leader? Le dollar américain, enfin sa panier de devises, a-t-il réellement donné un signal de renversement haussier? La Fed ne va-t-elle pas baisser ses taux avant l'année 2027, chers amis? Première partie, je vous explique les monnaies qui sont à l'étude. Il y a des monnaies dites majeures du marché d'échange et les monnaies émergentes. On va parler de plein de devises. Deuxième partie, on commence par la base, les perfs. Qu'est-ce qui s'est passé entre le vendredi 27 février à nos jours sur ces monnaies majeures du marché d'échange, mais aussi sur ces monnaies émergentes. Troisième partie, monnaies d'Asie. Les monnaies d'Asie sont-elles en souffrance? Et oui! Quid de la monnaie de la Corée du Sud, quid de la monnaie de l'Inde, quid de la monnaie de la Chine, quid du Japon, etc., etc. Les monnaies d'Asie sont-elles en souffrance alors que, vous le savez, ce sont ces pays qui sont archi-dépendants de l'énergie qui passe par le détroit d'Hormuz. On va faire un petit focus sur la roupie indienne qui continue de se faire écraser. Il est vrai que l'Inde est en difficulté avec ses réserves stratégiques de pétrole assez limitées. Ensuite, yuan chinois versus roupie indienne. Et oui, là, justement, il y a une différence. Le yuan a été résilient, pour certaines raisons. La roupie, non. Ensuite, dollar canadien versus... Oui, je fais tellement chaud, j'ai oublié de prendre des notes. Dollar canadien et dollar australien. La résilience des monnaies dites matières premières. Oui, à la fois sur le marché des devises dites émergentes, le real brésilien, le peso mexicain, vous avez des devises dites matières premières, mais sur le marché d'échange flottant majeur, le FX majeur, eh bien, vous avez deux grandes devises matières premières, le dollar australien, le dollar canadien, nous allons voir pourquoi, et c'est globalement, ce sont ces monnaies qui ont été un peu plus résilientes face au dollar américain que les autres. Bien sûr, je veux aussi parler du franc, du yen, qui n'ont absolument pas activé d'aspect refuge pour des raisons que je vais vous expliquer. Le dollar US, c'est le grand gagnant. Face à un risque systémique, face à la remontée des taux, face à la hausse du prix de l'énergie, le marché price peut-être une hausse de taux de la Fed. Alors ça va être marrant parce que Kevin Warsh arrive en mai pour baisser les taux. Je ne sais pas comment il va faire. Ça va être passionnant cet épisode. Mais le dollar, est-ce qu'il a vraiment, à part le fait qu'il a remonté, est-ce qu'il a vraiment donner un signal de renversement haussier, au contraire, revient-il sur une zone de résistance où il va bloquer, chers amis, guerre au Moyen-Orient, gagnants et perdants du marché d'échange, tous les enseignements géopolitiques liés à la tendance des monnaies en lien avec ce conflit.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Guerre au Moyen-Orient, les gagnants et les perdants sur le marché d'échange. Et globalement, nous allons passer en revue un schéma de marché d'échange. Les devises majeures, quelle catégorie de devises majeures? Les devises émergentes qui s'appliquent globalement, théoriquement, à l'ensemble des conflits géopolitiques. Bien sûr, ça dépend aussi où ils sont situés et quelle zone économique est le plus impactée. Mais globalement, c'est quand même un certain nombre de principes que je vais donc vous donner. C'est parti, le plan, je vous l'ai donné à l'instant dans l'introduction, donc ce que je vous propose c'est de ne pas passer 30 ans sur le plan qui s'affiche ici sous vos yeux à nouveau, à l'écrit. Je vous rappelle que la barre de temps est chapitrée, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse le plus. Et donc chers amis, FX, devise majeure et devise core, de quoi parlons-nous? Alors, commençons par le commencement, de quoi parlons-nous? Nous parlons du marché d'échange, nous parlons du forex, nous parlons du marché d'échange flottant, le FX. FX, comme disent nos grands amis britanniques, américains, canadiens, australiens. FX en anglais. Donc, plusieurs monnaies. Tout d'abord, les devises dites majeures. Attention, ça ne correspond pas forcément aux principales économies du monde. Mais sur le marché d'échange, rien ne bouge. Il y a certains pays qui sont encore dans la catégorie émergents alors qu'ils sont développés. Vous avez des monnaies comme la couronne suédoise. Je vous rassure, on n'en parle pas, j'en dis pas un mot, on s'en fout complètement. Qui sont dans les devises majeures, alors que tout le monde se fout de la Suède, sur le plan économique. Bon, alors, peu importe. ce sont les devises qui sont les plus liquides, là où il y a le plus de volume. Donc, vous avez les devises dites majeures qui appartiennent au DXY. Le DXY, c'est le code du dollar américain face à un panier de devises. L'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise, le franc suisse. Et vous avez deux autres devises majeures du FX, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, qui sont des devises majeures historiques de par leur volume, mais qui ne sont pas dans le DXY. Moi ici, je vais parler donc des conséquences de la guerre sur l'euro, le yen, la livre sterling, le franc suisse, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien. Au passage, je vous rappelle la composition de concrètement le DXY, ce qu'on appelle le dollar américain face à un panier de devises. C'est surtout la grande question de cette vidéo. Le dollar qui a été le grand gagnant de ce conflit géopolitique, va-t-il l'être encore même quand la paix arrive? A-t-il donné donc un signal bullish de renversement? Si, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, les devises EM Core, pour pays émergents, devises majeures des pays émergents, sont à l'étude ici. Le peso mexicain, le yuan renminbi chinois, le real brésilien, le rand sud-africain, le won sud-coréen et la roupie indienne. Voilà donc pour ce que nous allons passer en revue. Commençons donc par, bien que s'est-il passé, performance des monnaies entre le vendredi 27 février au vendredi 20 mars. Oui, donc j'ai arrêté ça au vendredi 20 mars. J'aurais pu même arrêter ça aux deux premières semaines. Peu importe. Ce qui compte, c'est quel était l'impact sur le marché des changes. Qu'on voit les grandes dynamiques. Que nous puissions voir les grandes dynamiques. Donc là, j'ai essayé de faire, d'imaginer quelque chose qui soit le plus synthétique, visuel pour vous. Est-ce que, grosso modo, quelque chose vous saute aux yeux? Donc j'ai déjà mis, pour que l'information saute aux yeux, un code couleur. Donc, regardez bien, vous avez 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Oui, vous avez identifié la couleur verte. Et elle n'est pas très présente. Mais elle est présente, mais elle est présente, je déconne, elle est présente sur une ligne. Le dollar américain en hausse. Flight to quality, en période d'incertitude géopolitique, potentiellement systémique, donc ça je vous renvoie vers les Top Gun que j'ai fait la semaine dernière, notamment sur là où cela peut être systémique pour les principales économies en Asie. Donc oui, le dollar américain, qui a été, je vous rappelle, depuis 2 ans, la devise la plus faible du FX, eh bien, sur cette période-là, les 3 premières semaines du conflit, il a été en hausse. Ensuite, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, mais pas que. Du rouge sur, logiquement, en général, dans les périodes de stress géopolitique, quand le dollar américain rebondit, le réflexe, c'est de se débarrasser, en tout cas de revendre des devises émergentes. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur les devises émergentes, vous expliquant qu'elles avaient bien performé. Eh bien là, face à un stress géopolitique, les traders du FX se débarrassent. Elles ne se sont pas effondrées. Hein. Vous avez les performances. Le peso mexicain a perdu 2%, le rand sud-africain a perdu 3%, le won sud-coréen 4%, la roupie indienne 2, et ça s'amplifie. Donc déjà, alors, la roupie indienne, on peut comprendre, la roupie indienne, je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite son graphique, la roupie indienne, on peut comprendre qu'elle soit sous pression, du fait, eh bien, regardez, c'est l'Inde, regardez l'effondrement, donc quand je dis que la roupie indienne est sous pression, c'est l'envolée du taux USD-INR. Pourquoi? Parce que l'Inde est la principale et parmi les premiers, la première puissance asiatique dont le détroit d'Ormuz représente vraiment une part importante de ses importations d'énergie. Surtout, ils ont des réserves stratégiques assez limitées en pétrole. J'arrive avec ces données. Mais là, vous voyez qu'il y a vraiment un impact majeur. Le conflit, regardez, vendredi 27 février, c'est là. La veille des opérations militaires, vendredi 27. Voilà, la roupie s'est envolée. Donc je reviens moi sur on fait la synthèse. Donc le dollar est la seule devise qui est en hausse. C'est la seule devise qui est en hausse. On regarde le dollar américain face à un panier de devises. Le conflit a commencé ici. Donc vendredi 27 février, les opérations militaires ont commencé le 28. Effectivement, le dollar est passé de 97 points à 100 et quelques points. J'arrive tout à l'heure sur la partie technique pour voir s'il a validé ou pas un signal de renversement aussi de fond. Ensuite, alors, vous avez dans le rouge le franc, le GBP, le yen, le dollar néerlandais, l'euro. Alors justement, c'est intéressant. On peut avoir un réflexe de se dire en période de stress géopolitique, le franc suisse par exemple, ou même le yen, peuvent avoir un aspect refuge. Mais non, pas dans la phase initiale en tout cas, pas quand c'est le dollar américain qui est recherché. Et d'autre part, il y a un souci avec le franc et le yen. Si vous voulez, si on recherche de l'aspect refuge, on recherche aussi de l'aspect rendement. Voilà, je vous rappelle quand même, vous avez ici une comparaison de la rémunération à 3 mois des principales devises. Bon, regardez par exemple dans le tableau, parmi les devises qui ont résisté, le dollar canadien, le dollar australien, le yuan chinois et le réal brésilien. Ces devises ont résisté, notamment le réal brésilien, qui est à peu de choses près inchangé. Ça peut être parfois petite hausse, petite baisse, d'accord, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une vision des choses. Le dollar est en hausse, le franc, le GBP, le yen, le dollar néo-zélandais, l'euro, la roupie indienne, le won sud-coréen, le rand sud-africain, le peso mexicain en baisse, et vous avez au cœur des devises que j'appelle résilientes, qui sont peut-être en petite baisse, résilientes, ou petite hausse, le dollar canadien, le dollar australien, le yuan et le réal. Alors déjà, effectivement, on peut se dire, incroyable, le franc a baissé, le réal a monté. Pourtant, en période de stress géopolitique, les devises émergentes sont vendues. Et le franc, c'est quand même le franc, alors refuge. La chose, c'est que le franc est déjà tout en haut. Le franc, ça fait plusieurs années que c'est la devise la plus forte du FX. Il est déjà très cher, le franc. Et puis, il y a un autre souci, c'est que c'est bien beau que le franc ait un aspect refuge, mais vous avez ici un tableau qui compare la rémunération à 3 mois des principales devises du FX. Pourquoi le yen et le franc ne sont pas recherchés de par leur aspect refuge? Puis il y a un problème de politique monétaire. Ça rapporte zéro. Regardez, trouvez-moi le réal. Regardez, il est tout en haut, le réal. Voilà combien rapporte le réal. Donc, à un moment ou un autre, aspect refuge ou pas aspect refuge historique, peu importe, il y a cette question de la rémunération de la monnaie. Donc, effectivement, on va regarder le graphique, par exemple, du dollar australien. Effectivement, on voit le dollar australien, bon, bah lui, alors, depuis le début du conflit, bah, on voit que c'est flat, voilà. C'est flat, alors c'est pour ça, je n'ai pas dit qu'il avait monté, il est résilient. À la différence, il y a bien une différence entre la roupie qui s'effondre et le dollar canadien, lui, qui reste à peu près flat, le dollar australien qui reste aussi à peu près flat, ou même encore le yuan chinois, regardez le conflit, voilà, le yuan chinois qui reste aussi à peu près flat. Bon, ils n'ont pas pour autant progressé. Alors, il y a un certain nombre de raisons à tout cela. Pour ce qui est du dollar canadien et le dollar australien, il s'agit des devises matières premières. C'est le théâtre d'opération au Moyen-Orient. Il y a un problème avec le détroit d'Ormuz. L'Asie est sous pression. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud, etc. etc. Toutes les grandes puissances asiatiques sont sous pression. Qu'est-ce que l'Australie exporte vers la Chine? Beaucoup de choses, beaucoup de matières premières, beaucoup de métaux. Non, pas de pétrole. Ah, un peu. L'Australie, c'est du GNL. Rappelez-vous, 20% du GNL mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et l'Australie est un très gros exportateur de GNL, notamment en direction de la Chine. Donc, il y a, si vous voulez, des devises où on peut comprendre qu'elles résistent. Pour ça, il faut connaître donc ce qu'il y a derrière les monnaies. Donc, voilà le tableau de bord. Pour résumer, le dollar est en hausse. Les devises cycliques sont sous pression, certaines devises émergentes ont été fortement impactées, on va voir les raisons, et vous avez des devises qui résistent, le dollar canadien, le dollar australien, le yuan, et bien. Donc ça déjà, pour les prochains conflits géopolitiques, s'il y a une contrainte d'énergie qui est exercée, alors bien sûr si la guerre a lieu en Australie, peu probable, ça change tout, mais si le conflit a le lien, il faut aussi voir la proximité du théâtre d'opération. C'est pareil, là le réal brésilien tient le choc, si le conflit était en Amérique latine, ça change tout. Voilà, donc il faut qu'il y ait une contrainte d'offre d'énergie, que vous ayez des monnaies majeures ou émergentes qui exportent cette énergie qui est contrainte dans la zone de guerre, et ces pays qui prennent le relais ne sont pas dans la zone de guerre, on peut comprendre que la monnaie résiste. En tout cas, voilà la première partie du tableau de bord. Les monnaies asiatiques ont-elles souffert? Pourquoi je pose la question? Je vous rappelle ici ce slide que je vous ai montré dans l'émission Top Gun. Lorsqu'on parle de risque systémique en lien avec la navigation commercial et le transport d'énergie, pétrole, gaz naturel liquéfié, aluminium et quelques autres produits chimiques, pétrochimiques, c'est l'Asie. Simplement le pétrole, mais aussi le gaz. La Chine, 47% passe par Hormuz, 30% du GNL, 73% pour le Japon, 25%. L'Inde, c'est du 40%, la Corée du Sud, voilà. Donc, les monnaies asiatiques ont-elles souffert? Bien, oui, elles ont souffert, en particulier l'Inde, en particulier la Corée du Sud. Le yen, oui, logiquement, en plus de ça, non seulement le yen, c'est vrai parce que souvent certains mettent en avant le yen comme un aspect refuge, mais là rien du tout, rien du tout. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que ça rémunère pas, il y a une raison de politique monétaire, et puis voilà, l'Inde, le Japon est archi sous pression, archi sous pression. Alors ces pays ont eu quand même un impact différent sur leur monnaie, en lien avec leurs réserves stratégiques de pétrole, tout ça bien sûr sont données estimées, il y a probablement davantage, bon, peu importe. La différence entre le yuan chinois et la roupie indienne, je vous ai montré ça à l'instant et je vais donc vous le remontrer. La roupie indienne, la tendance haussière de l'USD-INR qui continue de se faire fortement vendre. Donc si l'USD-INR progresse, c'est que la roupie indienne baisse. INR, c'est le code de la roupie indienne. Si le USD slash INR monte, la contrepartie est en baisse, c'est donc l'INR. Ça, vous savez tous lire une tendance sur le marché d'échange. Bon, eh bien, la devise chinoise, elle est restée stable. La devise chinoise est parfaitement restée stable. Première explication, les réserves. Le temps estimé avant la tension pétrolière, qui est 4 à 5 fois plus élevé pour la Chine que pour l'Inde. Déjà, là, il y a une première explication. Après, si le conflit dure 4-5 mois et que ça passe au compte-gouttes, alors il y a des discussions entre l'Iran, l'Inde, la Chine, mais qu'il y ait des discussions ou pas, il y a des usines dans le Golfe qui sont à l'arrêt, il y a le transport maritime. Vous savez, les marins, s'ils n'ont pas envie de reprendre la mer, l'augmentation des primes d'assurance pour la navigation dans le détroit, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, dans tous les cas, c'est contraint. À moins que le conflit s'arrête et que tout reprenne comme avant et que ça se remette en place. Donc déjà, là, il y a une explication de cette mise sous pression de la roupie indienne et par rapport au yuan chinois. Alors ensuite, il y a bien sûr d'autres explications. Pourquoi le yuan et le réel brésilien ont résisté? Il s'agit aussi donc de marchés actions qui sont beaucoup moins chers que Wall Street. Il s'agit de marchés actions qui structurellement attirent les capitaux. Et si vous voulez, lorsque vous avez des gérants qui ont des stratégies comme ça d'allocation de moyen long terme sur certains marchés actions, c'est pas dans les premiers jours de conflit qui change. Donc, au stade actuel, la relative résilience de ces marchés actions fait que ces devises, pour le moment, en tout cas dans les trois premières semaines du conflit, tiennent le choc. Vous avez dollar canadien et dollar australien, la résilience des monnaies majeures, dites matières premières. Vous avez donc deux devises, dites majeures, en lien avec les matières premières, le dollar canadien. Donc je vais vous montrer ça en utilisant les indices devises, ce sera plus percutant. Donc vous avez par exemple voilà l'indice dollar canadien, qui se maintient globalement flat depuis le début du conflit. On a même ici potentiellement une structure en épaule-tête-épaule inversée qui est en train de voir le jour. Et vous avez donc le dollar australien, l'indice dollar australien, qui lui aussi est en tendance haussière. Donc le dollar canadien et le dollar australien ne sont pas non plus haussiers depuis le début du conflit, mais ils ont affiché une relative résilience. Alors cela est dû à leur lien avec les matières premières. Il faut faire la différence entre le Canada et l'Australie. Ces deux pays ont comme point commun d'être loin de la zone d'opération. Donc, eux, ils sont tranquilles. Ok, très bien. Pour ce qui est du dollar canadien, l'exposition, elle est essentiellement au pétrole. Le dollar canadien, beaucoup d'études statistiques montrent qu'il y a une corrélation entre le prix du brut et la tendance du dollar canadien, une corrélation positive. Le dollar australien, le lien avec le pétrole est plus faible, même si l'Australie exporte du pétrole. Par contre, l'Australie est dans le top 5 mondial des exportateurs de GNL, gaz naturel liquéfié, dont 20% passe par le détroit d'Ormuz, et l'Australie exporte énormément en direction de la Chine, et là, on peut parfaitement imaginer que face aux difficultés actuelles, la Chine se tourne aussi vers l'Australie. Il y a aussi, bien sûr, une exposition aux métaux. Il y a certains métaux qui sont profiteurs de guerre. Je vous ai notamment parlé dans le Top Gun du tungstène, et puis à un moment ou à un autre, toutes ces munitions, toutes ces armes qui sont utilisées, il faudra reconstituer les stocks, il y a de la consommation de métaux. Donc ce sont des devises qui sont intrinsèquement soutenues par des conflits géopolitiques. Le dollar américain, est le grand gagnant sur le marché des changes. Pour autant, le dollar américain a-t-il donné un signal de renversement haussier? C'est une question majeure. Prenons du recul à nouveau avec le graphique qui expose ici les bougies japonaises en données hebdomadaires. Donc, c'est passionnant parce que, rappelons un peu les choses, le dollar américain, la première année du premier mandat de Trump avait baissé. Puis finalement, la seconde année de son second mandat avait donné un signal haussier, technique, une base d'accumulation, un breakout, des divergences, parfait. Vous avez aussi l'exemple du renversement haussier de 2021, la tendance baissière de 2020, une phase d'accumulation, le breakout, précédé d'une double divergence, le signal, ça part. Vous avez eu ici la première année du second mandat de Trump, première année du premier mandat baissière, première année du second mandat baissière, phase d'accumulation, et donc le dollar était jusqu'avant le conflit sous pression avec la guerre commerciale, avec les perspectives de baisse de taux de la Fed, alors sauf miracle, enfin sauf bonne surprise, ça ne va pas arriver tout de suite. Bon, techniquement parlant, le dollar a progressé. D'ailleurs, je vais afficher la performance des devises, on va représenter ça donc à l'aide des indices devises. Voilà, la performance des devises depuis le début du conflit. Voilà. Le dollar américain face à un panier de devises est la seule devise majeure en hausse. Donc ça, c'est très bien. C'est une bonne chose d'être en hausse. Mais la vraie question pour un technicien, c'est cette hausse se traduit-elle par un signal de renversement haussier? Nous avons effectivement la double divergence, qui rappelle la double divergence de 2020, qui rappelle la double divergence de 2017. Nous avons la latéralisation. Nous n'avons pas encore, Z'ENCO2RE, la validation, en tout cas pas quand je lance la vidéo, mais elle peut venir, il y a des pré-signaux. La zone pivot est ici, donc je vous remontre ici le graphique en données mensuelles. En données mensuelles, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, le pivot est à 102 points. En chartisme, le pivot est à 101,50, 102. Donc 101,50, 102. En Ishimoku Weekly, nous sommes entrés dans le Kumo. Donc nous ne sommes plus baissiers, nous sommes à nouveau neutres. Pour autant, d'un point de vue chartiste, donc le pivot est à 101,50, 102. Alors, toute cette zone-là, le marché ne l'a pas encore traversé. Le pivot est donc ici, 101,50, 102. Et effectivement, si le dollar US était en mesure de réaliser un breakout des 101, 102, il donnerait à ce moment-là le même signal de renversement haussier que fut celui enregistré en novembre 2021 et en avril 2018 avec une cible à 107 points et derrière donc ces 5-6% de hausse de plus pour le dollar américain, avec toutes les conséquences que cela aura sur les paires majeures du Forex, et en particulier l'euro-dollar. Mais ce signal n'est pas donné au moment où j'enregistre cette vidéo, donc mettez-moi s'il vous plaît sous très haute surveillance le niveau des 101, 102 points sur le DXY. Les institutionnels, les données ont un peu de retard, mais effectivement la position nette euro-dollar commence à baisser. Il y a surtout une réduction des positions à l'achat sur l'euro-dollar. Donc la tendance de l'euro-dollar est inversée à celle du dollar américain face à un panier de devises. Il n'y a pas d'augmentation encore des positions short. Mais là, bien sûr que le temps, plus le conflit dure, plus le dollar sera haussier. Si le conflit devait s'arrêter, si une solution devait être trouvée, une perspective de cesser le feu, tout ce que vous voulez, et que se refluidifie le transport maritime à travers le détroit, le dollar reculera à nouveau. C'est l'enseignement principal, de toute façon, de cette phase de conflit géopolitique. En lien avec quoi? En lien avec, eh bien, quelque chose qui, il faut bien sûr admettre comme potentiellement très compliqué. Le marché n'anticipe plus de baisse de taux de la Fed avant 2027. Tout ça peut aller très vite. La Fed de Jerome Powell l'a rappelé. Si la cible d'inflation n'est pas atteinte, il n'y a pas de rate cut. Ça a été dit tel texto par Jerome Powell. Ce qui va être passionnant, c'est que Kevin Warsh arrive à la tête de la Fed au printemps. Il a été recruté pour baisser les taux et qu'il arrête dans un contexte qui finalement ne sera pas facile, alors qu'il pensait que ça allait être facile. Qu'est-ce qui va se passer? là où c'est compliqué, je vous montre, le 2 ans américain, s'il confirme le dépassement du taux de la Fed, le taux de la Fed est à 3,75. Le 2 ans américain, le taux qui anticipe le taux de la Fed. Lorsque le 2 ans passe au-dessus du taux de la Fed, ça veut dire que le marché anticipe une hausse de taux, que le marché considère que les fondamentaux justifient une hausse de taux. Si le marché considère ça, mais que la nouvelle Fed, à partir du printemps, n'agit pas, est-ce que la Fed ne va pas perdre sa crédibilité? Et là, ça peut être aussi un sujet majeur. Alors, est-ce que ce sera déstabilisant ou pas pour le dollar US? En tout cas, tant que le pétrole se maintient à un niveau élevé, tant que la géopolitique met la pression, tant que les taux remontent, les taux courts ici, remontent aux États-Unis, le dollar avancera. Mais attention, le dollar ne valide pas, le dollar est haussier depuis le début du conflit, et il ne valide pas de signal de renversement haussier majeur tant qu'il se situe sous les 101,50. 102 points. Voilà, chers amis, j'espère que ce tour d'horizon du FX vous a intéressé. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.